Chapitre 16. Le loup dans la bergerie. Après les aventures de la nuit, nos jeunes gens n'eurent pas beaucoup de temps pour se reposer. Il était nuit quand les chrétiens se levèrent pour se rassembler dans les différentes églises afin de se séparer avant le jour. C'était pour la dernière fois qu'ils se réunissaient dans leurs églises. On allait fermer les oratoires. À compter de ce jour, le culte divin serait célébré dans les églises souterraines des cimetières. On ne pouvait espérer que tous les fidèles pourraient se rendre, même le dimanche, à plusieurs milles au-delà des portes de Rome. Dans ces temps de guerre, on accordait aux chrétiens un bien précieux privilège, on leur confiait la Sainte Eucharistie qu'ils emportaient dans leur maison afin qu'ils puissent communier seuls avant de prendre aucune nourriture, comme l'explique Tertullien. Pendant les persécutions, les fidèles ne se considéraient pas comme des brebis qu'on mène à la boucherie, ni comme des criminels qui se préparent à leur exécution, mais comme des soldats armés pour le combat. Ils trouvaient leurs armes, leur force, leur nourriture à la table du Seigneur. Les timides et les tièdes eux-mêmes se sentaient rafraîchis et fortifiés par le pain de vie. Comme on peut le voir encore dans les cimetières, il y avait dans les églises souterraines des sièges pour les pénitenciers, devant lesquels les pécheurs s'agenouillaient pour confesser leurs fautes et recevoir l'absolution. Dans ces moments de trouble, le code pénitentiaire était adouci. On abrégeait le temps des expiations. Le clergé, rempli de zèle, avait employé la nuit entière à préparer son troupeau à cette communion qui, pour un nombre de chrétiens, devait être en ce monde leur dernière communion solennelle. Nous n'avons pas besoin de dire à nos lecteurs que l'office accompli alors était dans le fond et dans les parties essentielles le même office auquel nous assistons chaque jour à l'église. Le sacrifice de la messe était déjà considéré comme le sacrifice du corps et du sang de notre Seigneur. L'oblation, la consécration et la communion étaient les mêmes et on les accompagnait des mêmes prières. Ainsi, les catholiques qui les entendent redire aujourd'hui et les prêtres qui les récitent dans la même langue que les chrétiens primitifs des catacombes doivent se sentir en active communion avec les martyrs qui célébraient les divins mystères et les autres martyrs qui y assistaient. À la cérémonie que nous décrivons, quand vint le moment d'échanger le baiser de paix, véritable effusion d'amour fraternel, on entendit l'église retentir des bruits de sanglots et de larmes, car ce baiser, pour un grand nombre des assistants, était un baiser d'adieu. Le fils se suspendait au cou de son père, ignorant si ce jour ne le séparerait pas jusqu'au moment où, dans les cieux, leurs palmes iraient s'entrelacer. La mère, alarmée à la pensée que l'avenir pourrait la séparer de sa fille, la pressait sur son cœur dans une étreinte à la fois tendre et douloureuse. Puis vint la communion, plus solennelle que de coutume, plus silencieuse et plus fervente. « Voici le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, » disait le prêtre à chaque fidèle en lui présentant la sainte nourriture. « Amen, » répondait le chrétien en la recevant, avec une voix que la foi et l'amour rendaient vibrante. Puis chaque fidèle, étendant sur sa main l'orarium ou linge blanc, recevait sa provision du pain divin qui devait le nourrir jusqu'au nouveau festin. Ce précieux dépôt, enveloppé soigneusement, reposait sur le cœur même des chrétiens après avoir été recouvert d'une riche étoffe ou déposé dans une boîte d'or. En ce moment, pour la première fois, la pauvre Syrah regretta la perte de la riche écharpe brodée. Depuis longtemps, elle l'aurait donnée aux pauvres si elle ne l'avait pas réservée pour un si noble usage. Sa maîtresse ne pouvait jamais lui faire accepter un objet de valeur sans joindre à son don la liberté de l'employer comme elle le voudrait, et les cadeaux de Fabiola passaient seulement par les mains de Syrah qui les donnait aux pauvres. Toutes les assemblées chrétiennes se séparèrent avant la découverte de la voie de fait commise contre l'édit. Elles se donnèrent rendez-vous dans les cimetières pour leur prochaine réunion. Comme on l'a vu plus haut, les entrevues fréquentes de Torquatus avec les deux païens au bain de Caracalla avaient été surveillées de près par le Capsarius et sa femme, et Victoria avait surpris un projet d'invasion dans le cimetière de Callistus pour le jour qui suivrait la publication de l'édit. C'est pourquoi les chrétiens, se regardant comme encore en repos le premier jour de la persécution, profitèrent de cette dernière journée de paix pour inaugurer par des offices solennels les églises des catacombes qui, après quelques années d'abandon, avaient été remises en ordre par les fausseresses, repeintes et pourvues de tout ce qui était nécessaire au culte divin. Mais Corvinus, remis de son premier trouble, se procura promptement une autre copie de l'édit, moins grande que la première. Il commençait à prévoir et à redouter les suites de la colère de son maître impérial. Le Das avait dit vrai. Corvinus aurait à répondre de la perte de l'édit. Il se sentait donc désireux d'accomplir en ce jour même un acte éclatant de nature à prévenir sa disgrâce avant de se trouver sous le regard de l'empereur. Il résolut donc d'avancer d'un jour l'attaque du cimetière projetée pour le lendemain. De grand matin, il se rendit au bain où Fulvius, qui surveillait toujours Torquatus, prévint ce dernier de la venue de Corvinus et du conseil qu'ils tiendraient ensemble. Le digne trio concerta donc ses plans. Corvinus, guidé par l'apostat, entraîné malgré lui à la tête d'une bande de soldats choisis qui étaient à sa disposition, devait faire une descente dans le cimetière de Callistus et en chasser le clergé et les principaux chrétiens. Pendant ce temps, Fulvius, resté en dehors avec une autre compagnie de soldats, leur intercepterait les passages et leur couperait toute retraite. Il s'emparerait des proies les plus importantes et surtout prendrait le pontife et les membres les plus éminents du clergé. La visite que Fulvius avait faite dans le cimetière chrétien le jour de l'ordination favoriserait son projet et l'aiderait à reconnaître le pontife et la partie la plus éminente du clergé. Il formulait intérieurement son plan de cette manière. « Laissons les sceaux faire l'office du furet dans la garenne. Moi, au dehors, je serai le chasseur à l'affût. » Mais Victoria, tout en ayant l'air de ranger et de nettoyer comme à l'ordinaire dans la chambre retirée où ils organisaient leurs plans, en avait trop entendu pour ne pas rester sans avoir l'air de les écouter. Elle raconta tout à Cucumio. Celui-ci, après s'être longtemps gratté la tête, sembla avoir trouvé un moyen pour avertir les chrétiens du cimetière de Callistus de ceux qui se préparaient contre eux. Sébastien assista le matin aux divers mystères avant de se rendre au palais pour y remplir sa charge accoutumée. Puis il alla au bain selon l'usage presque universel afin de rafraîchir ses membres fatigués et aussi pour éloigner les soupçons que son absence matinale aurait pu faire concevoir. Pendant ce temps, le vieux Capsarius, comme il s'appelle lui-même dans l'inscription posthume qu'il se composa avant sa mort, écrivit sur une feuille de parchemin tout ce que sa femme avait entendu du projet d'envahissement immédiat du cimetière et de l'intention de s'emparer de la personne du saint pontife. Puis il attacha cette feuille dans la doublure de la tunique de Sébastien qu'il gardait, car il n'aurait pas osé adresser, devant d'autres personnes, la parole au noble tribun. Après son bain, l'officier entra dans la salle où l'on discutait sur les événements du jour et où Fulvius attendait que Corvinus vînt lui dire que tout était prêt. À la vue de Fulvius, le noble tribun s'éloigna avec dégoût. Tout en marchant, il sentit une piqûre à la poitrine et, portant la main à sa tunique, il trouva le parchemin. Il était conçu dans une latinité aussi élégante que l'épitaphe de Cucumio. Mais l'officier en comprit assez pour juger nécessaire de tourner ses pas vers la voie appienne, au lieu de se rendre au Palatin, et d'aller communiquer l'avis important qu'il venait de recevoir aux chrétiens rassemblés dans le cimetière. Il trouva un messager plus rapide et plus sûr que lui-même dans la pauvre enfant aveugle qui n'attirerait pas l'attention. C'est pour cela qu'il l'arrêta et lui remit l'avis, après avoir ajouté quelques mots en note, à l'aide de la plume et de l'encre qu'il portait sur lui. Puis il lui demanda de faire parvenir ce billet à sa destination aussi promptement que possible. Il avait à peine quitté les bains lorsque Fulvius fut averti que Corvinus et sa petite troupe, disséminés dans les champs pour n'exciter aucun soupçon, l'attendaient pour se diriger vers l'endroit désigné. Il monta de suite à cheval et galopait le long du chemin, tandis que le soldat chrétien donnait ses instructions à la jeune aveugle. Lorsque nous avons suivi Diogène et sa petite caravane à travers les catacombes, nous nous sommes arrêtés court devant l'église souterraine, parce que Severus, prévoyant la trahison de Torquatus, ne voulut pas l'introduire dans l'église. C'est là que la congrégation chrétienne est assemblée sous la conduite de son pasteur suprême. L'église était construite d'après les principes communs à toutes ces excavations que nous n'osons pas appeler des édifices. Que le lecteur se représente deux des chambres ou cubicula que nous lui avons décrites, placées de chaque côté de la galerie, de sorte que leurs portes ou leur entrée sont l'une en face de l'autre. À l'extrémité de l'une de ces pièces, on trouve un arcosolium ou une tombe servant d'autel. Il est probable que, dans l'une des divisions, se plaçaient les hommes sous la garde de l'Ostiarius et que, dans l'autre, les femmes se rassemblaient sous la conduite des diaconesses. Cette division des deux sexes pendant les offices était scrupuleusement observée dans la primitive église. On voyait souvent des ornements architecturaux dans ces églises souterraines. Les murs qui s'approchaient de l'autel étaient revêtus de plâtre et ornés de peinture. Des demi-colonnes taillées gracieusement dans la pierre et sculptées au chapiteau comme à la base, divisaient les différentes parties et embellissaient les entrées. Dans la principale de ces églises souterraines qu'on a découverte dans le cimetière de Callistus, on a trouvé une chambre dénuée d'autel qui communique avec l'église par une sorte de passage formant un entonnoir transperçant la muraille de terre de 12 pieds d'épaisseur et conduisant à la hauteur de 5 ou 6 pieds dans la chambre qui est située à un niveau plus bas dans une direction oblique. De cette façon, tout ce qu'on disait à l'église était entendu par les personnes assemblées dans cette chambre sans qu'elles puissent voir officier. On pense que cette place était réservée à une classe de pénitents publics appelés audientes ou écouteurs et aux catéchumènes que le baptême n'avait pas encore initiés. La basilique dans laquelle les chrétiens étaient assemblés lorsque Sébastien leur envoya son message était semblable à celle qu'on a découverte dans le cimetière de Sainte-Agnès. Chaque division était double. Elle se composait de deux grandes salles. Des demi-colonnes séparaient l'église des femmes, tandis qu'on voyait de grands piliers dans celle des hommes. On trouve dans chaque division une petite niche pour y placer une image ou une lampe. Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans cette basilique est la prolongation de la construction qui forme une espèce de chœur ou de place pour le clergé. La grandeur de cette division est la moitié des deux autres divisions, dont elle est séparée par deux colonnes placées le long de la muraille. Comme dans nos églises modernes, le chœur est moins élevé que les autres parties du monument. Chaque portion renferme dans son élévation d'abord une tombe cintrée, puis quatre ou cinq rangées de tombes placées au-dessus, et le chœur n'est pas beaucoup plus élevé que l'arcosolium ou tombe-autel. À l'extrémité du chœur, au milieu de la muraille, on trouve un siège avec son dossier et des bras taillés dans la pierre. De chaque côté est placé un banc de pierre qui occupe ainsi l'extrémité et les deux parois du chœur. La table de la tombe située derrière le siège de pierre est plus élevée que le dossier du trône. On ne pouvait bouger ce siège, il est donc clair que la table de la tombe ne servait pas d'autel. On devait placer devant le trône un autel portatif isolé au milieu du sanctuaire et la tradition nous dit que c'était là qu'on mettait l'autel de bois de Saint-Pierre. Nous trouvons l'exacte disposition de ces anciennes basiliques dans les églises bâties en temps de paix. Le trône épiscopal situé au milieu de l'abside. De l'autre côté, les sièges pour le clergé et l'autel placé entre le trône et le peuple. C'est ainsi que les premiers chrétiens donnaient dans leurs primitives églises les principes qui devaient diriger l'architecture ecclésiastique. C'était dans une basilique de cette nature que les fidèles s'étaient rassemblés lorsque Corvinus et sa bande arrivèrent à l'entrée du cimetière. Torquatus indiquait la route qui conduisait par des degrés à un bâtiment semi-ruiné et masqué par des fagots. Ils le trouvèrent vide et prirent immédiatement leurs dispositions. Fulvius, en compagnie de 10 ou 12 hommes, devait garder l'entrée et saisir au passage ceux qui voudraient s'y introduire ou en sortir. Corvinus, aidé par Torquatus et suivi de 8 soldats, se prépara à descendre. « Je déteste cette besogne souterraine, » dit un vieux légionnaire à barbe grise. « Je suis un soldat et non un chasseur de rats. Amenez-moi un homme à la lumière du jour et je combattrai avec lui main contre main, pied contre pied. Mais je n'aimerais pas être noyé dans la fange d'un égout ou empoisonné comme la vermine. » Ce discours fut bien accueilli par les soldats. L'un d'eux se prit à dire « Il y a peut-être là-dessous des centaines de chrétiens et nous sommes un peu plus d'une demi-douzaine. Ce n'est pas pour cette sorte de tâche que nous recevons notre paye, » dit un autre. « Je redoute leur sorcellerie et non leur valeur, » ajouta un troisième. Il fallut toute l'éloquence de Fulvius pour les déterminer à agir. Il leur assura qu'ils n'avaient rien à craindre, que les chrétiens courraient devant eux comme des lièvres et qu'ils trouveraient dans leur église plus d'or et plus d'argent qu'une année de paye ne leur en procurerait. Ainsi encouragés, ils atteignirent en tâtonnant l'extrémité de l'escalier, distinguèrent des lampes placées de distance en distance et éclairant les longs passages obscurs qui s'étendaient devant eux. « Silence !» dit l'un d'eux. « Écoutez cette voix !» L'écho renvoyait au loin les accents doux et sonores d'une jeune et fraîche voix. La peur ne la rendait point tremblante, elle était si claire et si limpide qu'à la distance lointaine, on distinguait encore les mots qu'elle prononçait. Elle entonnait les versets suivants. « Dominus illuminatio mea et salus mea, quem tibemo. Dominus protector vitae meae, aquo trepidabo. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, que pourrais-je craindre? Le Seigneur est le protecteur de ma vie, qu'ai-je à redouter ?» Alors s'éleva un cœur de voix qui reprit avec force en chantant, comme des eaux qui mêlent leurs murmures. Pendant que le méchant s'approchait de moi pour manger ma chair, les ennemis qui me suivaient se sont affaiblis et sont tombés. Une colère mêlée de honte saisit les assaillants en entendant ces mots de calme confiance et de défi. La voix qui chantait seule reprit alors, en s'éloignant peu à peu, « Si les ennemis rangés en bataille se lèvent contre moi, mon cœur ne connaîtra pas la crainte. » « Il me semblait bien reconnaître cette voix, murmura Corvinus, je l'aurais distinguée entre mille. C'est celle de mon mauvais génie, de celui qui a causé tous les événements funestes de la journée et de la nuit. Celui qui chante en ce moment, c'est Pancratius, le jeune homme qui a déchiré l'édit. Allez, en avant, mes amis, ramenez-le mort ou vif. » « Mais attendez, dit l'un, laissez-nous allumer nos torches. » « Écoutez, interrompit un second soldat pendant qu'on allumait les torches. Quel est ce bruit étrange? On dirait que c'est une pioche ou un marteau qui creuse à distance. Il y a déjà quelque temps que ce bruit parvient à mes oreilles. » « Regardez, reprit un troisième, les lumières s'éteignent, la musique a cessé. Nous sommes certainement découverts. » « Il n'y a pas de danger, reprit Torquatus, en feignant un aplomb qu'il ne ressentait pas. « Ce sont les vieilles taupes, Diogène et ses fils, qui préparent des tombes pour les chrétiens que nous saisirons. » Torquatus avait recommandé en vain à sa troupe de ne pas prendre des torches, mais de se munir d'espèces de lanternes dans le genre de celles que porte Diogène dans la peinture des catacombes que nous avons mises sous les yeux des lecteurs, ou de prendre des bougies de cire semblables à celles qu'il avait apportées pour lui. Mais les hommes déclarèrent qu'ils ne descendraient pas sans une provision de lumière de tel genre qu'une bouffée de vent ou qu'un coup sur le bras ne pourrait pas l'éteindre. On vit bientôt les effets de cette obstination. À mesure qu'ils avançaient, observant en silence, le long des étroites galeries, les torches de résine craquaient et pétillaient, lançant des lueurs éblouissantes qui fatiguaient et échauffaient les soldats. Puis une fumée épaisse s'élevait de la torche. C'était comme un nuage qui entourait les hommes en les suffoquant et allait rejoindre la voûte en obscurcissant peu à peu la lumière des torches. Torquatus se mit à la tête de la petite bande, tournant tantôt à droite, tantôt à gauche, selon ses souvenirs, car toutes ses marques avaient été soigneusement effacées. Après avoir compté un peu plus de la moitié du nombre des allées, il fut stupéfait en trouvant le passage complètement bouché. C'est que des yeux plus perçants que les siens l'avaient remarqué. Sévérus ne s'était jamais relâché de sa vigilance, déterminé qu'il était à ne pas être surpris. Lorsque les soldats pénétraient dans le cimetière, Sévérus se trouvait près de l'entrée souterraine. Il courut en avant, à la place où l'on avait mis le sable pour fermer l'ouverture. Son frère et plusieurs autres robustes ouvriers stationnaient là en cas de danger. En un instant, ils se mirent à l'œuvre, silencieux et actifs comme de coutume. Ils poussèrent le sable de chaque côté de l'étroit corridor, pendant que des coups de pioche détachaient de la voûte basse d'énormes quartiers de rochers qui bouchèrent bientôt l'entrée. Ils restèrent à l'abri de cette barrière, retenant à peine un éclat de rire, en entendant leurs ennemis à travers cette légère séparation. C'était leur ouvrage que les soldats avaient entendu faire. Il avait obstrué les lumières et amorti le bruit des champs. La perplexité de Torquatus ne diminua pas par la volée de jurements et d'imprécations, les menaces de violence qu'on lui prodigua en le traitant comme un idiot ou un traître. « Restez un moment ici, je vous en supplie, » dit-il. « Il est possible que je me sois trompé dans mon calcul. Je reconnaîtrai la bonne voie à une tombe remarquable qui est située à quelques mètres en deçà. J'irai dans un ou deux corridors et je verrai. » En disant ces mots, il recula, s'enfonça dans une galerie située à gauche, avança de quelques pas et disparut complètement. Quoique ses compagnons l'eussent suivi jusqu'à l'embouchure de la galerie, ils ne purent voir ce qui lui arriva. Ils crurent que Torquatus et sa lumière s'étaient envolés par un sortilège. « Nous ne voulons plus de cette besogne, » dirent les soldats, « ou Torquatus est un traître, ou c'est un magicien. » Exténué, échauffé dans cette atmosphère que les lumières rendaient brûlante, aveuglé, noirci, à demi étouffé par cette fumée épaisse, découragé, ils retournèrent sur leurs pas. À compter de la grande galerie, le chemin étant droit, les soldats jetèrent çà et là leurs torches fumeuses dans la galerie pour s'en débarrasser. Quand ils se retournèrent, il leur sembla qu'une illumination triomphale avait été allumée dans les profondeurs des corridors obscurs. À l'ouverture des différentes cryptes, on voyait une éclatante lumière qui teignait de pourpre les murailles sombres, tandis que la fumée, semblable à un nuage ambré, s'élevait au-dessus et gagnait la voûte, se répandant le long de la galerie. Les tombes scellées recevaient sur leurs tuiles ou sur leurs plaques de marbre des teintes dorées et paraissaient couvertes d'ornements d'argent ou d'or incrustés dans le damas empourpré de la muraille. C'était comme un hommage rendu aux martyrs par les païens le jour même de la persécution. Les torches allumées pour détruire servaient seulement à faire étinceler les monuments de cette vertu qui n'a jamais failli pour sauver l'Église. Avant que la meute défaite eût atteint l'entrée du cimetière, elle recula à la vue d'une étrange apparition. Les soldats avaient cru entrevoir d'abord la lumière du jour, mais ils s'aperçurent que c'était la lueur vacillante d'une lampe tenue par une personne debout, immobile, sur laquelle la lumière tombait en plein. Elle portait un vêtement de couleur sombre qui la rendait semblable à ces statues de bronze dont la tête et les quatre extrémités sont en marbre blanc et qui font tressaillir au premier abord, tant leur ressemblance avec des êtres vivants est grande. « Qu'est-ce que cela ?» marmottaient les hommes en se parlant les uns aux autres. « T'es une sorcière !» répondit l'un. « Le génie gardien de l'endroit !» observa un autre. « Un capri !» suggéra un troisième. Pendant qu'ils approchaient en hésitant, l'être étrange ne semblait pas avoir conscience de leur présence, ses yeux restaient sans regard et l'apparition demeurait immobile et muette. À la fin, deux soldats furent assez rapprochés d'elle pour la saisir par les bras. « Qui es-tu ? » demanda Corvinus avec rage. « Une chrétienne !» répondit Cécilia de sa douce voix accoutumée. « Emmenons-la !» commanda Corvinus. « Quelqu'un enfin paiera pour notre désappointement !»